Laudetur Jesus Christus.
Vérité, justice, les trois piliers de l'action diplomatique du Saint-Siège selon Léon XIV. Le pape a reçu ce matin les membres du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège. Son discours en détail juste après les titres. Dans ce journal, nous irons en Pologne, deux jours avant le premier tour de l'élection présidentielle entachée par des ingérences extérieures. Nous irons également au Tchad où l'ancien premier ministre Succès Masra a été arrêté ce matin. Une arrestation qui inquiète les partisans de la démocratie. Et puis nous entendrons l'appel à la solidarité de l'Église de France à propos du projet de loi sur la fin de vie, examiné en ce moment même par les parlementaires français.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
Bonsoir à tous. C'est l'un des rendez-vous majeurs d'un début de pontificat. Léon XIV a reçu vendredi matin les membres du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège. L'occasion pour le nouveau souverain pontife de partager sa vision de la diplomatie vaticane et celle-ci doit être missionnaire. Le compte-rendu de Jean-Charles Puzzolu.
L'un des souhaits de Léon XIV est que les diplomates accrédités près le Saint-Siège aient la sensation d'appartenir à une famille, une petite société, mais antérieure à toute société civile, dit-il, citant « Rerum Novarum » de son prédécesseur, Léon XIII. Dans la vision du nouveau pape, la paix se construit dans le cœur et à partir du cœur, au quotidien, dans les actes et dans les paroles.
La pace è anzitutto un dono, il primo dono di Cristo.
La paix est avant tout un don, le premier don du Christ. « Je vous donne ma paix », rappelle-t-il. Elle est donc le premier pilier pour l'action missionnaire et diplomatique du Saint-Siège. Ensuite vient la justice, une justice au service de la lutte contre les inégalités sociales qui préserve toujours la dignité de chaque créature. Enfin, la vérité, à laquelle l'Église ne doit jamais se soustraire, car la vérité permettra d'affronter les défis de notre temps, des migrations à l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle, en passant par la sauvegarde de la création. Il est donc nécessaire de laisser les conflits derrière nous pour réaliser une humanité dans la vérité, un chemin de conversion vers la paix dans les contextes les plus éprouvés, comme l'Ukraine ou la Terre Sainte.
Jean-Charles Puzzolu, on l'a entendu à l'instant, la situation en Ukraine suivie de près par le pape Léon XIV. Le nouveau pontife a reçu hier l'archevêque majeur de l'église gréco-catholique ukrainienne. Monseigneur Tchevchouk a profité de cette audience pour confier au Saint-Père la liste des prisonniers de guerre détenus en Russie. Ces détenus également au cœur des discussions diplomatiques qui ont eu lieu ce vendredi à Istanbul. La Russie et l'Ukraine se sont accordés à Istanbul pour l'échange de 1000 prisonniers de chaque camp. La possibilité d'un instaurer un cessez-le-feu a également été évoqué, ainsi qu'une rencontre entre les deux présidents, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, tous deux absents à Istanbul. Le président ukrainien était, lui, à Tirana, à 700 km de là, aux côtés de ses homologues français, allemands, anglais et polonais. Lors de cette rencontre en territoire albanais, les chefs d'État ont échangé au téléphone avec Donald Trump. Parmi ses dirigeants européens, le premier ministre polonais Donald Tusk, dont le parti a été visé par une cyberattaque ce vendredi, à deux jours du premier tour de l'élection présidentielle. Deux sites internet de plateforme civique, le parti centriste au pouvoir, ont été temporairement mis hors service. 13 candidats sont en lice pour cette élection. L'actuel maire de Varsovie, soutenu par Donald Tusk, est le premier dans les sondages. Juste derrière lui se trouve le candidat du principal parti d'opposition de droite, Droit et Justice. Mais c'est un troisième candidat, celui du parti d'extrême droite Konfederacja, qui a la cote chez les plus jeunes. Sławomir Mentzen combine un programme sociétal très conservateur à une politique économique complètement libérale. Et plus d'un quart des électeurs de moins de 30 ans entend voter pour lui. Notre correspondant Adrien Sarla les a rencontrés à Varsovie lors d'un meeting de campagne. Reportage.
Émergeant d'un nuage de fumée rouge et blanche, Sławomir Mentzen salue les Varsoviens massés devant l'estrade. Christian, étudiant en marketing de 24 ans, est déjà conquis par le candidat au discours nationaliste et conservateur.
Je veux pouvoir rouler dans la voiture que je veux. Je veux pouvoir porter une arme à ma ceinture. Et je ne veux pas qu'un quelconque politicien essaye de m'en empêcher. Et je pense que Mentzen va nous aider.
Au mois d'avril, la moitié des jeunes électeurs comptaient donner leur voix aux candidats eurosceptiques, homophobes et anti-migrants, une proportion aujourd'hui divisée par deux, depuis qu'il a qualifié le viol de simple désagrément. Agatha, elle, se sent tiraillée.
Ce n'est pas le candidat dont je me sens le plus proche en termes de questions sociétales, mais son discours sur les questions économiques et financières me parle davantage.
À 18 ans, Véronica s'apprête à voter pour la première fois et pourrait aussi se laisser tenter alors qu'elle s'oppose frontalement à certaines de ses promesses.
Par exemple, je suis contre le fait qu'il veuille rendre les études payantes. Aussi, je veux qu'il y ait d'autres alternatives au duel permanent entre la coalition au pouvoir et le principal parti d'opposition et que quelqu'un de nouveau puisse entrer dans le paysage politique.
Comme tous les jeunes Polonais âgés d'une vingtaine d'années, elle n'a connu toute sa vie que l'alternance entre les gouvernements du parti de Tusk et de son rival, le PiS. Adrien Sarla, Varsovie, Radio Vatican.
Et autre scrutin décisif pour l'Europe ce week-end, le second tour de la présidentielle en Roumanie, dont le favori est le candidat nationaliste George Simion. Il était à Paris ce vendredi aux côtés de l'eurodéputé d'extrême droite Marion Maréchal. Lors d'une conférence de presse improvisée, il a dénoncé, je cite, les tendances dictatoriales du président français Emmanuel Macron, jugé responsable de l'annulation du scrutin présidentiel du 24 novembre dernier, une élection annulée sur fond de soupçons d'ingérence russe. Direction le Tchad à présent, où l'ancien Premier ministre Succès Masra a été arrêté ce matin à son domicile par des hommes armés. Le parquet tchadien a depuis expliqué que le principal opposant au président avait été interpellé pour diffusion de messages d'incitation à la haine. Les précisions de notre correspondant N'Djamena.
C'était aux environs de 5h du matin, heure de N'Djamena, que plusieurs corps de défense et de sécurité ont investi la résidence de l'opposant Dr Succès Masra, située dans le quartier Gassi, commune du 7e arrondissement de la ville de N'Djamena, pour procéder à son arrestation sans que le motif ne lui avait été notifié. Ceci l'a amené vers une destination encore inconnue. Le secrétaire général du parti, le transformateur Dr Togiam Nagorngar, qualifie cet acte d'enlèvement et exige sa libération sans condition.
Quand on parle d'un enlèvement, ça veut dire que il n'y a aucune procédure juridique qui a été respectée. Il n'y a pas de mandat, il n'y a pas de raison et c'est intervenu en dehors des heures légales d'une interpellation. Donc c'est pour cela que nous exigeons la libération immédiate et sans condition du président Masra Succès et le respect des procédures juridiques dans le pays.
Le procureur de la République, Omar Mohamed, qui était là et qui s'est exprimé en fin de la journée, a déclaré que l'arrestation de l'opposant Dr Succès Masra est liée au conflit survenu le 14 mai dernier dans le Logone occidental entre deux communautés qui ont fait plus de 40 morts. Il affirme que les enquêtes menées par la police ont relevé l'implication présumée de Dr Succès Masra à travers des messages haineux diffusés sur les réseaux sociaux appelant la population à s'armer. Abba André Diedonné N'Djamena pour Radio Vatican.
En France, le projet de loi sur la fin de vie est de nouveau à l'étude par les parlementaires. Les débats avaient été interrompus par la dissolution de l'Assemblée nationale l'été dernier. Dans une tribune hier, la conférence des responsables de culte en France ont dénoncé un basculement radical vers une possibilité d'administrer la mort. Conférence qui regroupe tous les responsables religieux français, bouddhistes, orthodoxes, musulmans, juifs, protestants, mais aussi catholiques. Ce matin, le président des évêques de France et signataire de la tribune, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, a pris la parole pour s'opposer au suicide assisté et réitérer la nécessité de développer les soins palliatifs. On l'écoute.
On fait comme si chaque personne était absolument autonome, enfermée en elle-même et n'avait aucune relation. Mais nous sommes liés les uns aux autres. Nous sommes reliés les uns aux autres. Et nous ne pouvons pas nous abandonner simplement dans la mort en disant à quelqu'un, bien, tu veux mourir, meurs. La prévention du suicide est une sorte de réflexe de nos sociétés depuis longtemps. Et là, on est en train d'instituer la possibilité d'un suicide assisté. Ce qu'il faut, c'est que nous développions une véritable fraternité. Le prétendu droit que l'on donne sera en fait très vite une pression sur les plus fragiles, les plus faibles, les plus isolés. Comment est-ce qu'une personne sans beaucoup de famille, sans beaucoup de moyens humains autour d'elle, va pouvoir résister à la pression que va représenter la tentation de dire oh ben je pèse, je coûte, eh bien je m'en vais. Non, la société peut dire et doit dire tu comptes, tu as du prix à nos yeux et nous sommes prêts à t'accompagner. Nous prônons le développement des soins palliatifs, qui sont des soins d'accompagnement, qui rendent possible l'accompagnement d'une personne jusqu'à la fin de sa vie et qui manque en France cruellement.
Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, il s'exprimait sur les ondes de la radio française RCF. Et puis on clôt ce journal au Vatican où le jubilé se poursuit. Ce week-end, les confréries sont mises à l'honneur. Un site pour en savoir plus, vaticannews.va. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre écoute et bon week-end à toutes et à tous.